Chapitre 29. Anna capta l'écho de bruit de pas dans un lointain couloir. Bien entendu, ils étaient assourdis par l'avant-pièce munie d'une épaisse porte qui tenait lieu de sas de sécurité à sa minuscule cellule, perdue au fin fond des entrailles du palais du peuple de Dar. La dame abbesse aurait été incapable de dire si on était le jour ou la nuit. À force de rester assise dans le noir, elle avait perdu la notion du temps. Prudente, elle économisait sa lampe, l'allumant seulement quand on lui apportait à manger ou lorsqu'elle écrivait à Verna dans son livre de voyage. Ou encore, en de rares occasions, quand elle se sentait vraiment trop seule dans sa prison. Au palais, prise dans les filets du sortilège qui protégeait la lignée râle, Anna avait à peine assez de pouvoir pour allumer cette lampe. Heureusement qu'il lui restait au moins ça, car elle craignait de tomber à court d'huile. Qui savait si ses geôliers consentiraient à lui en redonner? Pour une femme comme elle, l'idée d'être totalement privée de lumière, le plus beau don du Créateur à l'humanité, était une torture. Condamnée à passer la majorité de son temps dans le noir, Anna en profitait pour faire le bilan de sa vie et des siècles qu'elle avait consacrés à un travail acharné. Une longue lutte pour aider les sœurs de la lumière à assurer le triomphe du Créateur sur le gardien, ce monstre destructeur qu'il fallait absolument contenir dans les limites du royaume des morts, son domaine désolé. Tout au long de ces mêmes siècles, Anna avait vécu dans l'angoisse des temps obscurs qu'annonçaient certaines prophéties. Aujourd'hui, on y était. 500 années durant, Anna avait attendu la naissance de l'homme qui guiderait les forces de la lumière lors du combat final contre des hordes de brutes résolues à rayer la magie de la carte du monde. Pendant ces 5 siècles, la dame abbesse avait préparé le terrain pour ce sauveur, afin qu'il ait toutes les chances de son côté lorsque sonnerait l'heure décisive. Les prophéties ne laissaient aucune place au doute. Seul Richard avait une chance d'empêcher que l'obscurantisme règne en maître absolu sur l'humanité. Sans lui, le don était condamné à la disparition. Les prédictions n'affirmaient pas qu'il triompherait, elles annonçaient que lui seul pouvait obtenir la victoire. Sans lui, tout était perdu, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Du coup, Anna avait été sa plus fidèle servante longtemps avant sa naissance. Selon Callan, la dame abbesse s'était indûment permis d'intervenir dans la vie des autres. À l'en croire, les actes d'Anna étaient la cause de ce qu'elle tentait justement d'éviter à tout prix. Parfois, la dame abbesse éprouvait de terribles doutes. Se pouvait-il que la mère inquisitrice ait raison? Richard aurait peut-être dû choisir de lui-même, sans aucun coup de pouce, de prendre la tête du camp de la magie afin de le conduire à la victoire. L'enjeu de ce conflit était la survie du don, et au-delà, celle de l'humanité tout entière. Et Zed croyait dur comme fer au libre arbitre du sourcier de vérité. Bref, lui aussi condamnait les discrètes manipulations d'Anna. Au fond, le vieil homme et l'épouse de Richard pouvaient avoir raison. En tentant d'orienter des événements dont le cours la dépassait, Anna avait peut-être aggravé les choses au lieu de les améliorer. Les bruits de pas approchaient. Était-ce déjà l'heure de manger? Anna n'avait pas faim, en tout cas. On lui passait sa nourriture à l'aide d'un long bâton qui traversait le guichet de la première porte, franchissait la petite pièce au champ de force, puis se glissait entre les barreaux du guichet du second bâton. Nathan ne prenait décidément aucun risque, limitant au strict minimum les occasions où les gardes devaient ouvrir les deux portes qui séparaient Anna de la liberté. Ses geôliers lui faisaient passer du pain, de la viande, des légumes et des outres d'eau. Même si la cuisine était de qualité, Anna n'en tirait aucune satisfaction. Dans un cachot sinistre, les mets les plus délicats perdaient toute leur saveur. Au fil du temps, Anna avait souvent eu le sentiment d'être prisonnière de son poste. Ces dernières décennies, elle avait rarement pris ses repas avec les sœurs de la lumière, car la présence de la dame abbesse au réfectoire les mettait sur les nerfs. De toute façon, procéder autrement aurait été une erreur, car trop de familiarité finissait par ronger l'autorité d'un chef. Pour maintenir la discipline, une certaine distance était nécessaire, en même temps, selon Anna, qu'un savant mélange de crainte et de respect. Dans un palais où le temps passait au ralenti, les effets d'un sortilège, on ne pouvait pas laisser s'installer l'anarchie. Anna semblait avoir environ 70 ans. En réalité, elle avait vécu près de 1000 ans sous la protection du sort temporel qui isolait le palais des prophètes du reste du monde. Sa vision du pouvoir avait-elle été la bonne? Durant son règne de Dame Abbesse, les sœurs de l'obscurité avaient pris de plus en plus d'importance au palais. Sur des centaines et des centaines de sœurs, combien avaient prêté allégeance aux gardiens? Anna était incapable de le dire, mais les mensonges du maître de la mort avaient été des plus efficaces. Toutes ses promesses étaient fausses, bien entendu. Mais comment prêcher la bonne parole à des fanatiques? Pour des femmes qui voyaient vieillir et mourir toutes leurs connaissances résidant à l'extérieur du palais, l'immortalité était une récompense séduisante. Les sœurs qui avaient des enfants les faisaient élever hors du palais afin qu'ils aient une vie normale. En conséquence, elles finissaient par assister à leurs funérailles, puis à celles de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants. Quand on vivait de telles expériences en restant soi-même belle et désirable, la perspective de ne jamais mourir devenait de plus en plus attirante au fil du temps, en particulier lorsqu'une rose voyait ses pétales commencer à se flétrir. Vieillir n'était amusant pour personne, Anna le savait. Quand on vivait au palais des prophètes, les ravages de l'âge n'étaient pas gommés, mais dilués dans le temps. La Dame Abbesse elle-même, par exemple, était une vieille femme depuis quelques siècles. 400 ou 500 années de jeunesse semblaient être une délicieuse expérience. Le revers de la médaille, plusieurs siècles de vieillesse, se révélait insupportable pour beaucoup de sœurs. Anna ne partageait pas cette aversion. Pour elle, la vie était merveilleuse, quel que soit le nombre d'années qu'on portait sur les épaules, mais nul n'était obligé de partager cette vision des choses. À présent que le palais des prophètes était détruit, les sœurs vieilliraient au même rythme que le reste de l'humanité. Quelque temps plus tôt, Anna aurait pu espérer vivre une bonne centaine d'années de plus. Désormais, il lui restait 10 ans, et encore au maximum. Surtout si elle devait les passer dans ce cachot humide, loin de la vie et de la lumière. Parfois, elle avait du mal à croire que Nathan et elle n'étaient pas loin d'avoir vécu 1000 ans. Même si elle n'avait aucune idée de ce qu'éprouvait un vieillard normal, elle doutait que cela fût très différent de ses propres sentiments au sujet de l'âge. Le sort temporel, supposait-elle, devait altérer les perceptions de ceux qu'il protégeait. Les bruits de pas approchaient toujours. Anna n'avait plus aucune envie de manger dans ce trou à rats. Pourquoi ces geôliers ne l'oubliaient-ils pas, histoire qu'elle puisse crever de faim en paix? Qu'avait-elle accompli de bien dans sa vie? Lorsqu'elle y réfléchissait honnêtement, la réponse à cette question lui glaçait les sangs. Bien sûr, elle avait tout fait pour influencer Richard afin qu'il prenne les bonnes décisions. Mais au bout du compte, il avait toujours agi seul et 9 fois sur 10 en optant pour des solutions qu'Anna désapprouvait. Et ce fichu sorcier ne s'était jamais trompé. Si elle ne l'avait pas fait capturer puis incarcérer au palais, il ne se serait peut-être rien passé. Pour accomplir les prophéties, aurait-il suffi que Richard n'agisse pas? Laissant ainsi Jagang et l'ordre impérial croupir à jamais dans l'ancien monde, derrière l'infranchissable barrière? Anna avait-elle provoqué la catastrophe en essayant de l'éviter? On venait d'ouvrir la porte du couloir où se trouvait sa cellule. Eh bien, elle ne mangerait pas, même si on lui apportait un festin. Tant que Nathan ne serait pas venu lui parler comme elle l'avait demandé, elle ferait la grève de la faim. Parfois, on lui donnait du vin avec son repas. Un ordre de Nathan pour se venger d'elle, c'était certain. Pendant sa captivité, le prophète avait parfois demandé à boire un peu d'alcool. Informée de ses requêtes, Anna avait toujours catégoriquement refusé. Les sorciers étaient des hommes dangereux. Et qu'était un prophète sinon un sorcier capable de prédire l'avenir? Cette aptitude faisait de lui un individu plus dangereux encore. Alors, s'il se saoulait par-dessus le marché... Les prophéties semées aux 4 vents provoquaient immanquablement des catastrophes. Parfois, pour déclencher une guerre, il avait suffi qu'une seule prédiction parvienne à filtrer des murs du palais des prophètes. En plus d'un peu de vin, Nathan demandait parfois la visite d'une dame de compagnie. Anna détestait qu'il formule cette requête-là, parce qu'elle se sentait de temps en temps obligée d'y accéder. Enfermée dans ses appartements, Nathan avait une vie bien misérable alors qu'il n'avait commis aucun crime, à part celui de naître avec un don hors du commun. Le palais avait largement de quoi lui offrir les services occasionnels d'une professionnelle. Hélas, Nathan en profitait souvent pour se venger de ses geôlières. Combien de ces femmes étaient sorties du palais avec une prophétie calamiteuse qu'elles avaient eu le temps de répéter partout avant qu'une somme importante les convainque de se taire. Les profanes ne devaient pas avoir accès aux prédictions. Quand on manquait de la formation requise, mal interpréter ces textes était d'une facilité dérisoire. Divulguer une prophétie à une personne lambda revenait à jeter un tison ardent dans une plaie à l'herbe desséchée par le soleil. Non, décidément, les prophéties n'étaient pas faites pour toutes les oreilles. Et voilà que Nathan était libre de raconter ce qu'il voulait à qui il le désirait. Avant qu'il s'évade, Anna l'avait parfois discrètement emmené en voyage avec elle. C'était toujours pour la bonne cause, à savoir préparer le terrain pour la venue et l'avènement de Richard. Même s'il était un enquiquineur de première, Nathan restait un vrai génie de la prédiction et un sincère défenseur du camp de la magie. Dans les grimoires, il avait vu ce qui se passerait si l'ordre triomphait, et ça n'avait pas dû lui plaire beaucoup. Durant ses excursions, le prophète avait toujours porté un radahan qui le gardait sous le strict contrôle de la dame abbesse. Ainsi, le monde n'avait rien risqué. En mission avec Anna, Nathan n'avait jamais été libre de ses mouvements. Mais il s'était débarrassé du collier. Désormais, plus rien ne pourrait l'empêcher de nuire. C'était décidé. Anna ne mangerait plus. On verrait bien comment Nathan réagirait quand il saurait qu'elle se laissait mourir d'inanition. Anna croisa les bras, sa résolution plus forte que jamais. Plutôt que d'avoir sa mort sur la conscience, Nathan finirait par descendre la voir. Les bruits de pas s'arrêtèrent devant la première porte. Si elle avait eu accès à son Han, Anna aurait pu comprendre la conversation étouffée que tenaient ces mystérieux visiteurs. Elle soupira d'agacement. Dans ce palais de malheur, ses pouvoirs les plus simples étaient neutralisés. Bien entendu, ça paraissait logique. En construisant un sortilège géant pour neutraliser la magie de ses ennemis, quel idiot aurait oublié de les priver de la capacité d'espionner? La première porte pivota sur ses gonds en grinçant. Depuis le jour où on avait jeté Anna dans ses oubliettes, c'était la première fois qu'on l'ouvrait. Anna se précipita vers la porte de sa cellule et, s'accrochant au barreau, tenta de voir à travers le guichet. Une vive lumière l'éblouit. Se frottant les yeux, elle recula d'un ou deux pas. Après un si long séjour dans les ténèbres, la clarté devenait une torture. La dame abbesse recula encore quand elle entendit une clé tourner dans la serrure de sa porte. Il y eut un clic sonore, puis le battant s'ouvrit lentement. Un air un peu moins moisi que d'habitude pénétra dans la cellule, et la lumière d'une lanterne se refléta sur les murs grisâtres. Le bras qui la tenait était gainé de cuir rouge. Une mort de Sith.